avons le plaisir d'accueillir M. Jean Alcader, qui est, tunisien, c'est ça ?
Voilà, d'origine tunisienne.
D'origine tunisienne, et baptisé tout petit parce que la famille du papa est musulmane, la famille de la maman est catholique. Donc Jean est licencié en théologie de la faculté catholique de Strasbourg. Et il a écrit un livre, donc que vous trouverez en librairie, Le vrai visage de l'islam. Il a épousé une égyptienne copte et fondé une association qui s'appelle Kyrolos, donc nom copte de Saint-Cyril, pour la défense des coptes, enfin la connaissance et la défense des coptes. Donc il va nous traiter ce matin le sujet le chrétien face à l'islam.
Alors je vous remercie, je suppose que les applaudissements étaient pour notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis même sûr. Je vous remercie beaucoup. D'abord, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors donc, ce matin, je traiterai de la question de l'islam. Les musulmans, les chrétiens, comment se situer ? Comment nous, les chrétiens, nous pouvons nous situer par rapport à l'islam et par rapport aux musulmans ? Je vous ferai en gros trois parties. Rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose de compliqué ce que je vais vous dire. Au contraire, j'espère que je vais être le plus simple possible. Mais pour vous parler de cette question, je suis absolument contraint de vous faire une petite partie historique. Rassurez-vous, ce sera rapide. Ensuite, j'aborderai une question vraiment centrale. C'est d'ailleurs la question centrale de l'exposé de mon livre, sur la doctrine de l'islam. On ne peut rentrer, je dirais, en relation avec l'islam, et en tout cas avec les musulmans, que si on connaît un tant soit peu la doctrine de l'islam. Malheureusement, c'est quelque chose d'absolument inconnu. Absolument inconnu. Souvent, quand je parle, je fais des conférences depuis quelque temps, depuis pas longtemps, depuis 6 mois à peu près. Ben, même quand je vais dans des monastères avec des moines qui sont des érudits pour faire des conférences, c'est normal, ils n'ont jamais étudié cette question, ou plutôt on ne l'aura jamais présentée, donc ils ne savent pas eux-mêmes souvent le béaba de la doctrine de l'islam. Je ne dis pas ça parce que je suis plus un érudit qu'un autre, mais parce que je pense que cette question n'est jamais présentée dans les médias. Je pense que Mme Laurent ne me contredira pas sur ce sujet. Vraiment, on n'en parle jamais. On vous parle de l'islam tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les médias. On vous dit des tas de choses inutiles. On vous fait rentrer dans des tas de détails qui n'ont aucune importance, mais on ne vous dit jamais qu'est-ce que c'est donc que l'islam ? Qu'est-ce que c'est que cette religion ? En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? L'islam, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la doctrine de l'islam ? Et ensuite, eh bien, j'en tirerai les conséquences qui nous feront rentrer plus directement dans le sujet, dans le thème de notre question. Donc la première question, la partie historique. Ce qu'il faut savoir, et ce que personne ne sait, c'est que, ou très peu de gens savent, vous êtes chrétien, peut-être vous le savez, mais il y a un lien entre les trois religions monothéistes. Monothéisme, le monothéisme, ça signifie que mono, théos, un seul Dieu. Le monothéisme professe la religion d'un seul Dieu. Nous nous adressons à un seul Dieu, nous croyons en un seul Dieu. Les trois religions monothéistes sont donc le judaïsme, évidemment, qui professe un seul Dieu, le christianisme, et puis l'islam. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien entre ces trois religions. Vous savez peut-être qu'il y a un lien entre le judaïsme et le christianisme. Nous savons que le christianisme est comme l'accomplissement du judaïsme. Jésus est celui qui a accompli les Écritures. Jésus était d'un milieu juif. D'ailleurs, la Sainte Vierge aussi, Saint Joseph, tous les apôtres étaient juifs. Et évidemment, tous les premiers disciples étaient des juifs. Donc, tous les premiers chrétiens étaient des juifs. Donc, nous savons qu'il y a un lien entre le judaïsme et le christianisme. Nous avons la Bible comme les juifs, la Bible qui contient l'Ancien Testament comme les juifs, et nous avons en plus le Nouveau Testament. Mais ce que nous ne savons pas, le plus souvent, c'est qu'il y a un lien entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Souvent on pense qu'il y a le judaïsme d'un côté, là-bas, puis le christianisme, une autre religion, avec un certain lien, puisque Jésus quand même était juif et a accompli les Écritures. Mais quant à l'islam, alors là on pense que l'islam est une troisième religion, une religion qui n'a aucun lien avec le judaïsme et le christianisme. Une nouvelle religion, une autre religion. Si vous demandez à 99% peut-être de nos contemporains, de ceux qui pensent, qui ne sont pas croyants, bien ils pensent que l'islam c'est une autre religion, aucun lien avec le judaïsme et le christianisme. Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a non seulement un lien, mais plus qu'un lien. C'est que l'islam provient d'une hérésie judéo-chrétienne des premiers siècles. Ça c'est essentiel pour comprendre la doctrine de l'islam. Alors quel que soit son nom, cette hérésie judéo-chrétienne, aujourd'hui, il semble que la plupart des chercheurs actuels, tout récemment, insistent sur les origines judéo-nazaréennes de l'islam, la secte des judéo-nazaréens. L'islam proviendrait d'un groupement hérétique qui s'appelle les judéo-nazaréens, ou encore nazaréens, ou plus connu, encore un nom plus connu, l'ébionisme. Ce sont plusieurs noms d'un même groupement. Donc l'islam proviendrait de toute façon d'une hérésie judéo-chrétienne des premiers siècles. Ça paraît être une évidence. Une évidence. Je vais vous donner quelques exemples, simplement pour être très court. Comment peut-on reconnaître que l'islam provient d'une hérésie judéo-chrétienne ? Ben, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'en islam, toutes les traditions sont des traditions juives ou des traditions chrétiennes. Personnellement, je ne connais qu'une seule tradition qui ne soit pas juive ou chrétienne en islam. C'est ce qu'on appelle le Mouled, la fête du Mouled, la fête de la naissance du prophète Mahomet. Évidemment, il fallait bien qu'on se différencie un peu des autres religions, donc la fête de la naissance du prophète Mahomet montre que l'islam, semble vouloir montrer que l'islam est une autre religion, puisque l'islam a, soi-disant, un nouveau prophète, le prophète Mahomet. Mais toutes les autres traditions sont des traditions juives ou chrétiennes. Alors je vais vous en donner quelques exemples, toutes simples, pour que vous compreniez bien. Bah, tout simplement, le fait de ne pas manger de cochon, ce sont les traditions alimentaires. Les traditions alimentaires sont-elles nouvelles en islam ? Le fait de ne pas manger de cochon, ça on vous en parle régulièrement à la télévision, comme le voile, comme la prosternation des musulmans qui sont très pieux, etc. Mais on ne vous dit pas que le fait de ne pas manger de cochon, c'est une tradition tout simplement biblique. Dans le livre du Lévitique, nous avons certaines règles alimentaires que nous retrouvons en islam, notamment le fait de ne pas manger de certains animaux qui sont des ruminants, qui ont le sabot fendu, etc. Les seuls aujourd'hui dans le monde qui ne mangent pas de cochon, et depuis des siècles et des siècles, ce sont les juifs et les musulmans. Les aliments cachers chez les juifs, c'est-à-dire les aliments qui sont préparés d'une certaine façon et avec certains ingrédients particuliers, eh bien, ça correspond chez les musulmans à la nourriture halal. Vous avez maintenant, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, halal, dans les supermarchés, à côté de chez moi, il y a un supermarché Carrefour, et bien il y a un grand rayon halal. D'ailleurs, je m'amuse un petit peu de temps en temps. Récemment, je suis passé, il y avait une petite dame, et gentiment, on était quelques amis, on s'est amusé un petit peu. J'ai demandé à la petite dame, est-ce que vous savez où je pourrais trouver le cochon halal ? Voilà, je suis un petit peu amusé. Elle l'a bien pris. Bon. Je n'ai pas demandé musulmane, évidemment. Je ne me suis pas permis quand même. Voilà. Eh bien, les seuls qui ne mangent pas de cochon aujourd'hui dans le monde, ce sont les musulmans et les juifs, évidemment. La circoncision, ça paraît être un mot compliqué, mais enfin, c'est quelque chose de tout simple. La circoncision, c'est le fait de couper une partie du sexe de l'enfant dans un but religieux. On appelle ça on coupe le prépuce du sexe de l'enfant, du garçon, dans un but religieux. Les musulmans sont très fiers de la circoncision. Moi, quand je vais au Maghreb, je suis donc d'origine maghrébine, je vais en Tunisie très prochainement, eh bien, quand il y a une fête de la circoncision, c'est la grande fête chez les musulmans. À 5, 6, 7 ans, on circoncie l'enfant, on fait une grande fête, les tambours, l'enfant n'est pas très heureux, il pleure parce que c'est pas très amusant de qu'on lui coupe une partie du sexe, bon, c'est pas très agréable, mais c'est une grande fête. Eh bien, la circoncision dont sont très fiers les musulmans est une tradition typiquement juive. Non seulement c'est une tradition typiquement juive, mais c'est la tradition juive par excellence. Pour être juif, il faut être circoncis, et on voit bien dans la Bible, regardez dans le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, mais surtout dans les lettres de saint Paul, comment saint Paul peut se battre contre le fait que la circoncision serait un élément de salut. Bon, saint Paul nous dit, bon, vous les juifs chrétiens, parce qu'il s'adresse aux juifs chrétiens, il leur dit, vous êtes circoncis, bon, ben, restez circoncis, vous n'allez pas vous faire décirconcire. D'ailleurs, on se demande comment on pourrait faire. Bon, restez circoncis. Mais surtout, n'imposez pas la circoncision aux chrétiens qui ne sont pas juifs. On n'en a que faire de la circoncision. Être circoncis ou être incirconcis, ça ne change plus rien depuis que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu et que par sa croix et sa mort et sa résurrection, il a sauvé le monde. C'est lui le Rédempteur. On sera sauvé non pas parce qu'on a une petite partie du sexe de coupé, on n'ira pas au ciel parce qu'on a une partie du sexe de coupé, mais on sera sauvé parce que nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Donc c'est fini la circoncision maintenant. Vous êtes circoncis, très bien, mais vous n'êtes pas circoncis. S'il vous plaît, ne vous faites pas circoncire, ça ne sert plus à rien. La circoncision est un rite typiquement juif. Les premiers circoncis, évidemment, étaient Abraham et Ismaël. Et nous retrouvons en islam, évidemment, ces deux grands personnages, Abraham et Ismaël, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus loin. Donc les seuls qui sont circoncis aujourd'hui et qui pratiquent la circoncision dans le monde, eh bien, ce sont les juifs et les musulmans. Et pour qui cette tradition est extrêmement importante, ce sont les musulmans et les juifs. Les ablutions, encore un mot un petit peu compliqué peut-être, nous trouvons ça dans l'évangile. Les ablutions, c'est le fait de se laver des parties du corps en préparation à la prière. Allez dans n'importe quelle mosquée, eh bien vous verrez, il y a une petite salle où il y a des robinets, et puis on peut se laver des parties du corps, les oreilles, le nez, la bouche, les coudes, etc., les pieds. On se lave très rapidement quelques parties du corps en signe de purification pour entrer, je dirais, en état de prière, pour rencontrer Dieu dans la prière, pour être pur devant Dieu. Eh bien, les ablutions, c'est un rite typiquement juif. Et je ne vois pas qui dans le monde, autrement que les juifs et les musulmans, ne mangent pas de cochon, font la circoncision et font les ablutions. D'ailleurs, dans l'évangile, nous voyons aussi cette question des ablutions. Plusieurs fois, eh bien, Jésus est montré du doigt parce qu'il ne fait pas ses ablutions. Mais il dit aux juifs, écoutez, faites vos ablutions, c'est très bien, purifiez-vous des parties du corps, mais le symbole de ce rite, c'est de purifier son cœur. Et il dit aux juifs, vous nous dites que nous devons nous purifier l'extérieur, mais nous voulons bien purifier l'extérieur de la coupe, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la coupe. Purifier l'intérieur de la coupe, c'est-à-dire purifier votre cœur avant de purifier l'extérieur. Purifiez-vous l'extérieur si vous voulez, mais n'oubliez pas de purifier votre cœur, c'est là l'essentiel. Bon, les musulmans ont ce rite des ablutions, que l'on retrouve évidemment dans le judaïsme. Il y a bien d'autres traditions musulmanes qui sont empruntées au judaïsme. Mais je vous donnerai plutôt maintenant quelques exemples de traditions musulmanes qui sont empruntées au christianisme, ou au judaïsme, au christianisme parallèlement. Bien, le célèbre voile islamique. Ah ça, on vous en parle du voile dans les médias. On vous en parle. Ça, vous savez tout sur le voile. Vous avez bien sûr savoir quelle longueur il fait, en quel tissu il faut qu'il soit fait, de quelle couleur, avec quel fil. On sait tout si on veut, on a l'impression qu'on sait tout, mais on sait une multitude de détails qui ne servent à rien. Par contre, est-ce que vous avez déjà entendu un média, même un média chrétien, un média catholique, qui vous disent, mais d'où provient donc ce voile? Quelle est cette tradition? D'où vient cette tradition du voile? Bien, c'est tout simplement la tradition biblique. Dans la Bible, on voit bien des fois que les femmes juives portaient le voile et portent le voile quand elles sortent du cadre familial, comme ça se fait chez les musulmanes. À l'intérieur de la famille, les musulmanes ne portent pas le voile. Quand elles sortent à l'extérieur, elles portent le voile en signe de leur appartenance à l'islam. Et aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes filles portent le voile de plus en plus tôt, je dirais, en Égypte, eh bien, il y a 6-7 ans, il y avait 5% de jeunes filles et de femmes voilées. Aujourd'hui, en Égypte, de musulmanes, je parle. En Égypte, actuellement, plus de 95% des jeunes filles ou des femmes sont voilées, des jeunes musulmanes. Mais ça, c'est la recrudescence, malheureusement, de l'extrémisme musulman qui se développe, qui était déjà bien en place, mais enfin qui se développe. Quelques autres traditions, par exemple, donc, alors nous retrouvons aussi le voile chez les chrétiens, évidemment. Les voiles de nos religieuses, je ne sais pas s'il y en a ici, eh bien, c'est le voile israélite. Hein. Et puis la mantille à la messe, pour ceux qui le portent, comme ma femme en Égypte, les coptes égyptiens portent toujours la mantille. Ça, c'est le rite juif. Rien de nouveau sous le soleil islamique, jusqu'à aujourd'hui. Le ramadan, évidemment, en arabe on dit Ramadan, ça vient du mot Rumat. Alors on me taquine un peu sur cette question de Rumat, parce qu'on me dit, oui, mais il y a plusieurs lettres en arabe, c'est avec un del, le D, et pas un dat. Mais peu importe, on sait très bien que, évidemment, le dot étant la lettre par excellence de la langue arabe, elle est très difficile à prononcer, donc on sait très bien qu'elle est des petites, comme on ne prononce pas de la même façon en France, en Bretagne ou dans le sud de la France, je ne prononce pas tout à fait de la même façon. Bon, bah, petit détail. Enfin, Ramadan, ça vient des cendres. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport entre le ramadan et le carême des chrétiens, et on voit encore plus que le carême, le ramadan a un lien avec le carême des chrétiens puisqu'il s'appelle, ça signifie les cendres, donc qui rappelle évidemment le premier jour, le mercredi des cendres que nous fêtons, nous, chez les catholiques, pour commencer le carême, enfin, que nous fêtons, nous célébrons. Dans le Coran, vous avez, alors il y a beaucoup d'autres traditions qui proviennent du judéo-christianisme, vous les verrez dans mon livre pour ceux qui achètent le livre, mais je continuerai simplement en vous disant que dans le Coran, il y a beaucoup de personnages bibliques ou de traditions bibliques. Savez-vous, par exemple, que dans le Coran, on parle de Adam et Ève? Adam et Ève, il me semble que c'est plus que biblique. On parle de Noé dans le Coran. On parle, évidemment, des patriarches de l'Ancien Testament. Abraham, Moïse. Avant Moïse, Abraham et tous ses enfants, Isaac, Ismaël, Jacob, Joseph, ils sont tous cités et ils ont un rôle important dans le Coran. On parle également des prophètes de l'Ancien Testament, comme par exemple le prophète Élie. Et puis des figures bibliques du Nouveau Testament, évidemment, comme Jésus et Marie. Ils sont très souvent cités dans le Coran, Jésus et Marie. Et même Zacharie et Saint Jean-Baptiste. Dans le Coran, vous avez certains passages des textes sapientiaux de l'Ancien Testament. Je vous rassure, toutes ces données sont transformées dans le Coran. On prend les éléments bibliques, mais on les transforme pour donner une nouvelle doctrine, évidemment. Mais ils sont présents. Dans le Coran, vous avez par exemple la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Vous avez des passages des psaumes qui sont un petit peu déformés, etc., etc. L'islam provient bien d'une hérésie judéo-chrétienne des premiers siècles. Bon, la prosternation, pour terminer sur ce sujet, la prosternation des musulmans, ça n'a rien de nouveau. Hein. On dit les musulmans se prosternent, c'est extraordinaire. Très bien, ils se prosternent. Je viens de rentrer dans l'église avant de venir ici, hein, où il y a le tombeau de Saint-Louis-Marguerite de Montfort. Eh bien, quand je rentre dans une église, personnellement, je me prosterne. Bah, les chrétiens se prosternent encore quand il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Souvent, on se prosterne en rentrant et en quittant le Saint-Sacrement. Devant le Christ, notre Seigneur, on se prosterne devant Dieu. La prosternation est biblique. Dans la Bible, on voit très souvent des personnages qui se prosternent parce que devant la gloire de Dieu, on ne peut que tomber face contre terre. Par exemple, plusieurs prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, quand ils sont en présence de la gloire divine, quand ils ont une intervention divine, eh bien ils sont tellement, c'est tellement insupportable cette gloire divine, c'est tellement grand, tellement merveilleux qu'on ne peut que tomber face contre terre, on ne supporte pas la gloire de Dieu. On dit tomber face contre terre, se prosterner. Abraham se prosterne devant les trois anges qui viennent le visiter. À la transfiguration, les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Jacques, ne peuvent pas supporter la gloire de Jésus et tombent face contre terre, ils se prosternent. Tout cela pour vous dire que l'islam provient d'une hérésie judéo-chrétienne des premiers siècles. Abordons désormais la doctrine rapidement. Qu'est-ce que la doctrine de l'islam? Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce donc que cette religion? À partir du moment où on a compris ce qu'étaient les origines de l'islam, ce que sont les origines de l'islam, des origines judéo-chrétiennes, l'islam est arrivé au 7e siècle selon... Ça dépend de ce qu'on appelle vraiment l'islam, mais admettons, l'islam est arrivé au 7e siècle. L'islam n'est pas arrivé comme ça en tant que religion nouvelle, bien sûr que non. L'islam provient de cette hérésie judéo-chrétienne et elle est devenue progressivement l'islam. Cette religion est devenue progressivement l'islam, mais au départ, c'était une hérésie comme nous en avons encore aujourd'hui, comme par exemple les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont comme nous la Bible. Bon, alors il y a quelques petites virgules, malheureusement, qui va changer certaines données et puis vont transformer quelques interprétations de certains textes. Mais les témoins de Jéhovah ont la Bible comme vous et moi. Mais ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils pensent que Jésus n'est pas vraiment Dieu comme nous l'entendons nous. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus est un Dieu créé, donc un demi-dieu, un sous-dieu. Nous, nous pensons que Jésus est incréé, il est éternel. Il est Dieu et il a accepté de prendre la nature humaine. Il est Dieu qui s'est fait homme. Donc les hérésies judéo-chrétiennes des premiers siècles, pour beaucoup, refusaient la divinité de Jésus. Ils avaient comme nous les traditions chrétiennes, ou juives et chrétiennes, mais ils refusaient très souvent la divinité de Jésus. Eh bien, la doctrine de l'islam est très simple. Les musulmans prient 5 fois par jour. Ils ont 5 courtes prières par jour. Je vous signale que, on est en admiration devant la prière des musulmans, c'est très bien qu'ils prient, ils sont fervents, très bien. On ne va pas leur dénier le fait qu'ils prient. Parce que si nos contemporains priaient un peu plus, on serait bien heureux. Hein? Et on ne va pas leur dénier non plus le fait qu'ils se prosternent, tout ça c'est très bien, qu'ils aient des rites, tout ça. Nous en sommes très heureux et je pense que dans le milieu traditionnel, nous en sommes plus qu'heureux de nos traditions et de nos rites. Donc c'est très bien. Mais il faut savoir que les musulmans prient de façon très courte. Quand un musulman fait sa prière chez lui, et la plupart des musulmans font leur prière chez eux, quand on fait une proportion dans les pays arabes de mosquées, de personnes qui rentrent dans les mosquées par rapport à ceux qui prient chez eux, c'est infime. Les musulmans prient la plupart du temps chez eux. Eh bien la prière dure 2 minutes. La prière d'un musulman dure 2 minutes. Il la fait 5 fois par jour, mais elle dure 2 minutes. Entre les ablutions, les gestes qu'il fait, et les petites phrases, il y a 3 phrases en gros, hein, 3 phrases qu'il répète plusieurs fois, quand ils les font tout seuls, moi j'étais dans les pays arabes, j'habitais en Égypte plusieurs années, moi j'ai vu comment ça se passe, à l'institut pontifical où j'étais, un grand nom, n'est-ce pas, un institut pontifical où malheureusement, j'espère qu'on coupera ce petit morceau pour l'enregistrement, on y apprend parfois autant de bêtises qu'ailleurs, pardonnez-moi, j'ai entendu quelques bêtises, voilà, hein. Eh bien, il y avait des musulmans qui venaient prendre des cours aussi, ils faisaient leur prière, ça durait 2 minutes, hein. Ils allaient dans les toilettes, ça durait 2 minutes. Hein. Oui, à l'Institut Pontifical, malheureusement. Bon, je passerai sur ce sujet, ce sera pour la prochaine conférence. Je pourrais vous dire, j'étais 10 ans séminariste et dans les facs de théologie, alors je peux vous dire, j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs, sauf du noir. Sauf des soutanes noires, ça j'en ai pas vu dans les séminaires. Mais j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs et entendu de toutes les couleurs, malheureusement. Voilà, c'est notre église qui est malade, prions pour notre église. Bon. Donc la prière des musulmans est très courte. Elle est formée des ablutions, d'abord, avant la prière, on se lave des parties du corps, de certains petits gestes, notamment la prosternation, mais aussi une inclinaison, etc. Et puis de 3 petites paroles. Je ne m'arrêterai pas sur les 2 premières, il y en a une qui est un appel à la prière. On appelle les musulmans à venir à la prière. La deuxième, c'est le fameux Allahu Akbar, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Allahu Akbar, on traduit ça habituellement par Dieu est grand, mais ça ne signifie pas Dieu est grand. En arabe, pour les arabisants comme Madame Laurent, évidemment, Allahu Akbar, ça n'a jamais voulu dire Dieu est grand, mais Allah est plus grand. Akbar, c'est un comparatif. Sinon, on dirait Allahu al-Kébir. Kébir comme l'Aïd al-Kébir, la grande fête, la fête... Aïd el-Kébir, vous avez entendu parler de cette fête, la fête du mouton. Alors j'aime bien la traduction, mais non, je n'aime pas du tout justement. Mais, on traduit par fête du mouton. Fête du mouton. Alors, à la fête du mouton. Alors, tous les gens qui ne sont pas croyants, qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, demandez à des jeunes de votre âge, qui ont 20 ans, qu'est-ce que c'est pour toi la fête du mouton? Oh, ben, c'est la fête du mouton, comme nous, les Français, nous fêtons la fête de la vache, la fête du cochon, la fête du bio. Récemment, j'ai vu la fête du bio, la fête du bateau, la fête de la moto, la fête... Vous avez des fêtes de tout aujourd'hui, des fêtes de tout, sauf des fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, c'est fini. Mais vous avez des fêtes de tout, de tout, de tout. Regardez, dans les journaux, vous voyez des fêtes. Ben, la Eid el-Kébir, ça n'a jamais voulu dire la fête du mouton. La fête du mouton, faites le mouton, le petit, le grand, avec les poils longs, les poils courts, un blanc, un noir. Voilà, on choisit parmi les vaches la plus grosse, la plus belle, la grosse laitière. Mais non, c'est pas ça la fête du mouton. La fête du mouton, c'est une tradition juive. La tradition biblique. C'est la fête en arabe, Eid el-Kébir, la grande fête, ou Eid al-Adha, qui signifie la fête, qui, c'est un autre mot, c'est le plus juste, qui signifie la fête de l'égorgement, Adha. Ça veut dire, ben oui malheureusement, mais ça reprend la fête du sacrifice d'Isaac, du sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu, comme vous le savez, mais c'est ça la fête du mouton, c'est une fête juive, typiquement juive. Quand les musulmans fêtent la fête du mouton, ils ne s'amusent pas, ils ont pas, c'est pas le plaisir de tuer un mouton, c'est le plaisir de rappeler le sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu et qui a été remplacé, Isaac a été remplacé par le bélier que Abraham a trouvé dans le buisson. Bon, en passant, Isaac est remplacé en islam par Ismaël. Mais ça, c'est une autre question. Vous verrez pour quelle raison on a remplacé en islam Isaac par Ismaël. Bon, c'est Ismaël qui, pour eux, devait être sacrifié et qui n'a pas été sacrifié. Bref. Donc, c'est une fête juive. Vous voyez, encore une fête typiquement juive qui nous montre que l'islam n'a rien inventé, que les traditions musulmanes sont des traditions juives et que l'islam provient bien d'un groupement judéo-chrétien. Alors pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus où j'en étais. Donc, oui. Donc les musulmans font une courte prière, j'en étais au fameux Allahu Akbar. La troisième expression qui est extrêmement importante et qui nous permet de comprendre ce qu'est l'islam, la doctrine de l'islam, c'est la troisième phrase qui est dite régulièrement par les musulmans dans les prières et qu'ils répètent continuellement en dehors des prières et qu'ils lisent aussi régulièrement dans le Coran. Il s'agit de la profession de foi musulmane que l'on appelle en arabe shahada, la shahada. On pourrait traduire en français par la shahada, la profession de foi musulmane. C'est une phrase qu'ils répètent en général selon les régions du monde parce qu'il y a différentes façons de dire la prière, mais en général ils répètent cette phrase cinq fois, ou tout au moins la première partie, cinq fois à chacune des cinq prières quotidiennes. Donc ça fait 25 fois, en gros, par jour. C'est-à-dire que cette phrase, la shahada, il la répète 25 fois par jour, ou bien davantage. Et cette phrase est essentielle, la profession de foi de l'islam est essentielle. C'est une courte phrase, je vais vous l'expliquer. Mais elle est essentielle pour comprendre ce qu'est l'islam. Parce que non seulement les musulmans les répètent à chacune des cinq prières quotidiennes, mais il faut savoir qu'en islam, il n'y a pas d'autres prières que les cinq prières quotidiennes. Nous, chez les catholiques, eh bien, nous avons un credo et une théologie extrêmement développée et qui n'en finira pas de se développer au ciel puisque Dieu est infini. Donc, on n'aura pas fini de faire de la théologie grâce à Dieu, on ne s'ennuiera pas. Qu'est-ce que je vais faire au bout de 300 ans hein, je vais m'ennuyer. Mais non, au bout de 300 ans, on ne s'ennuiera pas puisque Dieu est infini, on le découvrira à l'infini et on fera de la théologie à l'infini grâce à Dieu. Mais regardez dans les monastères des moines, des religieux, sûrement chez le père de Blinière, eh bien, vous avez sûrement une grosse bibliothèque que je n'ai jamais visitée, mais avec des tas de livres, vous n'avez pas assez d'une vie pour lire tout le développement de la doctrine chrétienne avec des pères de l'Église qui vous ont fait des textes aussi merveilleux les uns que les autres pour comprendre des aspects de la nature divine, de notre Seigneur, des saints, je ne sais pas trop quoi. C'est infini, nous pouvons, et puis des tas de prières qui sont aussi belles les unes que les autres, des tas de théologiens qui ont fait des tas de raisonnements sur la question de Dieu, etc. Notre théologie est très développée. Oh ben, je ne vous parle pas des théologiens actuels, hein, parce que comme dirait André Frossard, la théologie moderne, on en prend et on en laisse. Et il rajoute, on en prend peu et on en laisse beaucoup. Mais nous avons un credo et une théologie très développée. En islam, rien de tout cela. En islam, une seule et même prière, répétée cinq fois par jour. Il n'y a pas d'autre prière en islam que cette prière et la lecture de versets du Coran. C'est la seule chose qu'il y a en islam au niveau du culte. Et il faut savoir que les versets du Coran que les musulmans lisent en permanence, pas tous les musulmans, mais un certain nombre de musulmans lisent des versets du Coran. Eh bien, la plupart de ces versets du Coran se rattachent à la prière et se rattachent à une phrase de la prière qui est la shahada, la profession de foi. La plupart des versets du Coran que les musulmans répètent ont un lien avec la shahada. C'est pour vous dire l'importance de la shahada, c'est pour vous dire l'importance de la profession de foi, et c'est pour vous dire que la shahada est tellement importante que dans mon livre, je finis par dire que la shahada, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la shahada. D'ailleurs, je n'invente rien, puisque pour devenir musulman, il suffit de dire la profession de foi musulmane. Il suffit de dire la shahada devant deux témoins. Et c'est fini, vous êtes musulman. Il n'y a pas besoin de faire 3 ans, 5 ans, 12 ans, 15 ans de catéchèse. Hein. Bon, c'est très bien de faire la catéchèse, mais aujourd'hui, nos curés demandent parfois un peu trop compliqué. Et puis les catéchumènes se découragent parfois. Tandis qu'en islam, c'est bien plus simple. Vous dites la shahada, c'est fini, vous êtes musulman. La shahada, c'est une très courte phrase, très pratique. Il y a un de mes oncles qui a voulu me la faire dire un jour. Parce que si je l'avais dite, ben je serais devenu musulman. Et après, comme j'aurais dit, mais non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien, il aurait dit à tout le monde, ben non, tu es revenu de l'islam au christianisme, et donc tu es un apostat. Donc tu es condamné à mort. Il y aurait des problèmes dans la famille. Grâce à Dieu, je ne l'ai pas dite. Ouais, pas facile. Qu'est-ce que c'est que cette shahada? C'est donc une des 3 phrases que les musulmans disent dans leur prière et qu'ils répètent. En arabe, enfin plutôt en français, on traduit cette phrase, vous la voyez parfois. Alors, la shahada, on n'en parle jamais dans les médias. Hein. Jamais, jamais, jamais. Les rares personnes, même dans le milieu chrétien, que j'ai vu parler de la shahada, justement, c'est Madame Laurent. Je la cite même à ce niveau-là dans mon livre. Merci Madame Laurent. Parce que c'est essentiel, la shahada. La shahada, c'est l'islam. Quand on sait ce qu'est la shahada, on sait ce qu'est l'islam. Pas difficile, l'islam se réduit à la shahada. Alors, on n'est pas difficile. L'islam, c'est quelque chose de très simple, de trop simple, malheureusement. Donc, on traduit en français la shahada par, habituellement, je ne suis pas d'accord avec cette traduction, évidemment, mais on la traduit la plupart du temps par « Dieu est unique et Mahomet est son prophète ». Les musulmans disent « Dieu est unique et Mahomet est son prophète ». Alors, la deuxième partie, « Mahomet est son prophète », bon, ça va. En arabe, littéralement, on devrait traduire par « Allah », parce qu'on ne peut pas dire que Allah, ça signifie exactement Dieu. Vous dites à un musulman en France, vous croyez en Dieu? Vous lui dites ça. Il vous dit, mais non, je ne crois pas en Dieu. Je crois en Allah. Parce que Allah est le nom de Dieu. C'est un nom de Dieu. La preuve, c'est que quand les musulmans disent Allahu Akbar, ils ne disent pas Dieu est grand. Ils disent Allah est plus grand. Mais plus grand que qui? Vous rendez-vous compte? Ils disent, je ne sais pas combien de fois par jour, en se prosternant, Allahu Akbar, Allah est plus grand. Et bien, il est plus grand que qui? Une comparaison, évidemment, ça doit aller avec l'élément qui est comparé. Bah, évidemment, Allah est plus grand que les autres dieux. C'est ça que ça signifie. Allah, nous, notre Dieu, à nous, notre Dieu, Allah. Bon, les chrétiens disent aussi Allah, les chrétiens orientaux disent aussi Allah pour désigner Dieu. Mais les musulmans, pour eux, Allah est le nom de Dieu et il est plus grand que les autres dieux. On peut penser que dans les premiers siècles, eh bien, les premiers musulmans étaient, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, quelque part, ils sont polythéistes, puisqu'ils croient qu'il y a d'autres dieux, que leur dieu est plus grand. Dire ça à un musulman, c'est peut-être une insulte, mais il y a quelque part quelque chose de vrai. Enfin, c'est une autre question. Eh bien, la deuxième partie, on peut traduire par « Mahomet est son prophète », mais je préfère traduire littéralement. En arabe, on dit Mohammed Rasulullah, Mahomet est le prophète d'Allah. C'est beaucoup plus net. Quant à la première partie, Dieu est unique, alors là, c'est... La traduction, malheureusement, a embarqué, emmené, depuis une cinquantaine d'années, l'islamologie sur des fausses pistes. À cause d'une mauvaise traduction ou d'une... Même, je pense, d'une méconnaissance de l'arabe, tout simplement. Depuis 50 ans, l'islamologie est partie sur des mauvaises pistes. Depuis 50 ans, vous savez, quand on regarde, moi je fais des études régulièrement, je fais que ça évidemment, sur l'islam maintenant, eh bien, quand je lis tous les auteurs depuis 50 ans, les islamologues, je me dis, il n'y a rien à prendre quasiment. On retrouve une nouvelle islamologie depuis 3, 4, 5 ans que des œuvres vraiment très très bonnes paraissent. L'abbé Gallès qui vient de sortir une thèse extraordinaire, Monsieur de Prémat, etc. Mais pendant 50 ans, il n'y a quasiment rien eu. Pour quelle raison? Parce qu'on traduit la première partie de la Shahada par « Dieu est unique ». En arabe, je vais vous faire un tout petit cours d'arabe, c'est très court. La première partie de la Shahada comporte 4 mots. 4. Je vous l'ai dit en arabe. « La ilaha illallah ». Il y a beaucoup de L. Hein. Oui, d'ailleurs, les musulmans font un jeu de mots avec ça. Ils appellent l'islam la langue du lem. Un jeu de mots parce que lem, ça veut dire à la fois non, c'est la négation, et en même temps, c'est la lettre L. Donc, la ilaha illallah, vous entendez L, 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 L. Ils font un jeu de mots. Et ils ont raison, c'est bien la religion de la négation, l'islam. C'est un jeu de mots juste. La ilaha illallah. Il y a 4 mots. Vous en connaissez déjà un, le dernier. Allah. Vous connaissez déjà un quart de la première partie de la Shahada. Vous êtes déjà fort en arabe. Le premier, la. Ça veut dire non en arabe. Non. La. Bah, ma fille, mon fils, puisque ma femme est égyptienne, copte, nous parlons arabe maintenant, parce que ma femme ne connaît pas encore très bien le français, bah, mon petit garçon en ce moment, il a à peine 2 ans, il n'arrête pas de dire « la ». Ça, il a appris. Et puis même quand il insiste, il dit « la ». Vraiment que, voilà. Il découvre le non avant de dire oui. Et c'est mieux de dire non que oui, comme tous les enfants, évidemment. « La », ça veut dire non, ou c'est le signe aussi de la négation ?« La », ça veut dire « pas ». « Rien », »,« il n'y a pas », »,« je n'ai pas », »,« la ». Bon, il y a plusieurs variantes, la, l'aime, l'aine, etc. Enfin, à partir du la, vous avez déjà la moitié de la première partie de la Shahada. Le troisième mot, ilaha, ça signifie une divinité. C'est la même racine que Allah. Bon, là, je vous ferai pas un petit cours, mais enfin, en arabe, les mots sont toujours formés de 3 consonnes ordonnées, toujours. Sauf exception comme la, les tout petits mots, mais en général, c'est toujours composé de 3 consonnes ordonnées. Donc, ilaha, vous avez la même racine que Allah. Donc, ilaha, ça veut dire une divinité. Donc, vous avez les 3 quarts de la Shahada, et puis le petit il à la fin, ça signifie excepté, sauf, hormis. Donc, la traduction est très simple. La ilaha il Allah, ça signifie il n'y a pas de divinité en dehors de Allah. Et bien, ça change tout le problème. Parce que si on dit Dieu est unique, d'abord, Dieu est unique, c'est une phrase positive, une phrase affirmative. Tandis que « il n'y a pas d'autre Dieu que Allah », c'est une phrase négative. Est-ce que l'on peut faire reposer sa foi pendant des décennies, sa foi, et pas seulement sa foi, sa culture, parce que l'islam n'est pas seulement une religion, loin de là. C'est une culture, c'est toute une identité. Peut-on faire reposer au moins sa foi sur une négation? C'est très important ça. Les musulmans, 25 fois par jour, répètent la Shahada. Et toute leur vie spirituelle est basée sur une négation. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Ben, s'il n'y en a pas d'autre Dieu que Allah, à quoi ça sert de le dire à la limite? Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Bon, ben, il n'y en a pas. Ben, s'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Non, mais un musulman ne repose pas sa foi sur une affirmation. Le musulman ne dit pas. Mon Dieu, Allah, je crois en toi. Parce que là, on repose notre foi sur Allah. Mais non, on repose notre foi sur rien du tout. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y en a pas. C'est extrêmement important. Parce que si on dit il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Moi, quand j'étais en cours de philosophie, en terminale, j'ai appris qu'une négation n'existe pas en soi. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, voilà, il insiste lourdement là-dessus, et c'est très bien, parce que une négation n'existe pas en soi. Une négation, ça n'est rien. En soi, ça n'est rien du tout. Je vous donne un exemple. Nous sommes au cours de cette conférence, et puis un monsieur rentre, et puis il s'exclame au milieu de vous, « Je n'ai pas de chien !» Vous vous dites, il est vraiment pas bien, le pauvre garçon. Il n'a pas de chien. Ben, s'il n'en a pas, pourquoi il vient nous le dire? Puisqu'il n'en a pas. Bon, s'il rentre en nous disant « j'ai un chien », on est content. On se dit « il est content, il a trouvé un chien dehors, je sais pas, il en a un, il est bon, il est peut-être pas très clair, mais enfin, il a quelque chose à nous montrer, il a quelque chose à nous dire, il a un chien, il est content de son chien, quoi, je sais pas, bon, il y a une raison. Mais s'il entre en vous disant « je n'ai pas de chien », vous dites « mais ça veut rien dire du tout, il a pas de chien, donc il n'y a rien, il n'y a pas de chien déjà, il n'y a déjà pas de chien, donc il n'y a rien à voir. » Et puis, s'il dit je n'ai pas de chien, il n'y a rien d'autre qu'un chien. Il n'y a rien de rien. Il n'y a pas de chien, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Rien de rien. Il n'y a rien. En soi, ça n'existe pas, une négation. Ça n'est pas une réalité. Une négation n'existe que par rapport à l'affirmation inverse. En soi, ça n'a pas d'existence, ça n'existe pas, mais par rapport à l'affirmation inverse, ça prend un sens, si l'on peut dire. Par exemple, nous sommes à une réunion où nous avons tous amené notre petit chien ou notre gros chien, avec les poils longs, il mange quoi, les croquettes machin, moi c'est un super pédigré, je ne sais pas trop quoi, quelle année, la vétérinaire, voilà. Ça existe malheureusement ces réunions avec tous nos petits chiens, tout, tout. Écoutez, c'est terrible, hier nous sommes allés nous promener dans un parc avec mes enfants, mais on a ri avec nos amis coptes parce que c'était le défilé de mode des chiens. Ah mais je vous assure, le défilé de mode des chiens. Les petits pékinois comme ça, puis après le gros dog avec tous attachés, puis ils passent tous à la suite, le grand-père, la grand-mère, la dame. Ils ont tous leurs petits chiens. Bien sûr, on aurait pu rester des heures et des heures à les regarder passer. Toutes les sortes de chiens, on en a vu passer un, c'était saucisson sur pattes, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais alors, très très, alors vous savez, mais alors bien peigné, tout ça, enfin. Alors les petits chiens. Donc. Quand est-ce qu'on va s'occuper des enfants, puisque des animaux. Bon, bref, alors... Si nous sommes à cette réunion chien, tout le monde a son chien, et ce monsieur rentre et dit « je n'ai pas de chien oh, », ben ça y est, on va pleurer. Ça a un sens, il rentre, nous avons tous un chien, nous avons tous en train de nous occuper de notre petit chien, et lui il rentre et le pauvre vieux il n'a pas de chien, on va pleurer quoi, bon il n'a pas de chien. Mais ça a un sens, parce qu'il rentre dans cette salle où il vient de perdre son chien, j'en sais rien moi, mais enfin, il rentre dans cette salle où tout le monde parle des chiens, tout le monde a son chien. Donc, je n'ai pas de chien, ça a un sens par rapport à tous ceux qui en ont un, et puis lui, le pauvre, il n'en a pas. Ça prend un sens. Tout ça pour vous dire qu'en islam, si les musulmans, revenons-en à nos moutons, pas que je dise revenons-en à nos cochons, récemment j'ai fait un lapsus révélateur dans une conférence avec des religieux et des religieuses, il y avait quelques laïcs, et j'ai dit, l'Aïd el-Kébir, ça signifie la fête du cochon. J'ai pas fait exprès. Et un monsieur timidement m'a dit, vous êtes sûr que c'est la fête du cochon? Alors sur le coup, je me dis oui. Et puis après, je dis non. C'est une chose à pas faire. Heureusement, c'était pas une réunion avec des musulmans. Bon. Donc, la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Ça s'oppose à quelque chose. Cette négation s'oppose à quelque chose. Eh bien, je vous le dis, dans le Coran, il y a toute l'explication. Je cite tous les versets dans mon livre, enfin tous, un certain nombre de versets qui expliquent cela dans mon livre, les versets du Coran. C'est que si les musulmans disent 25 fois par jour, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. C'est pour s'opposer, évidemment, à l'affirmation inverse qui dit, il y a d'autres dieux que Allah. Il y a des personnes ou des groupements qui disent, il y a d'autres dieux que Allah. Et nous sommes appelés à nous opposer, à combattre ceux qui disent qu'il y a d'autres dieux que Allah. Voilà ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas une religion. Je m'excuse, l'islam n'est pas une religion. L'islam est un combat religieux. Ça, vous pouvez l'écrire en gros. L'islam est une conquête pour la défense de la cause d'Allah, qui est très offensée. Voilà ce que dit le Coran. Allah est très offensé par ceux qui disent qu'il y a d'autres dieux que Allah. Et nous, les musulmans, nous sommes appelés à combattre ceux qui disent qu'il y a d'autres dieux que Allah. Non, il n'y a pas d'autres dieux que Allah. Et je me prépare au combat. Je me mets en état de combat intérieur, dans la prosternation. Mon Dieu, tu es très offensé. Je vous dis les choses telles quelles. Un jour, un de mes oncles musulmans du Maghreb m'a fait peur. Parce que, on dit, évidemment, je dis ma foi en islam. Eh bien, très souvent, on me répond par les arguments de l'islam. Et un de mes oncles me dit, non, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il a levé son doigt, il a commencé à chauffer. Bon, je n'ai même plus osé annoncer l'évangile l'année suivante. Enfin, je m'étais préparé à ne plus annoncer l'évangile, alors que je ne fais que ça. Je me suis dit, bon, on va voir la famille, je me calme, je vais simplement en vacances, tout ça. Mais le bon Dieu, il n'aime pas qu'on fasse comme ça. Quand je suis arrivé là-bas... j'ai ouvert ma Bible par hasard. Le premier jour, j'ai dit, tiens, je vais lire un petit passage de la Bible. Tiens, l'évangile, tiens. Et je tombe sur l'évangile de saint Marc qui dit « Celui qui a honte de moi n'est pas digne de moi. Celui qui rougit de moi, mais mon père rougira de lui. » J'ai compris tout de suite le message. Et maintenant, évidemment, comme toujours, j'ai repris l'évangélisation auprès des musulmans. Et je continue chaque fois que je vais au Maghreb, je ne fais que ça. Évidemment. Si j'y vais encore prochainement avec ma femme et mes enfants, c'est pas pour aller me promener sur les plages en bikini, en bikini, en maillot de bain, mais moi, excusez-moi. Bon, maintenant vous savez, on ne sait plus. Vous voyez ce que je veux dire. Bikini, voilà. Non. J'y vais pour annoncer l'Évangile parce que les temps sont très courts. Les temps sont très très courts. Nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps. Les 5 ans qui viennent, vous allez le vivre. Ils ne vont pas être faciles. Mais grâce à Dieu, la nouvelle ère arrive. Donc, dans le Coran, voilà ce qu'il est écrit exactement. Et vous pourrez lire toutes les références dans mon livre. Dans le Coran, voilà ce qu'il est écrit. Vous, ceux qui disent qu'il y a plusieurs dieux, vous ne pouvez pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul dieu, il n'y a pas d'autre dieu que Allah. Et quel est ce groupement auquel l'islam s'attaque particulièrement? Quel est ce groupement qui dit qu'il y a d'autres dieux que Allah? Ou ces groupements qui disent qu'il y a d'autres dieux que Allah? Voilà là où l'islamologie est partie sur des mauvaises pistes depuis 50 ans. C'est que on nous dit, malheureusement, vous avez sûrement entendu ça mes pères, que ce que combat l'islam, c'est le polythéisme. Le fait de croire en plusieurs dieux. Voilà ce que, soi-disant, selon les islamologues, et encore jusqu'à aujourd'hui, on entend dire que l'islam combat le polythéisme. Et on entend même, j'ai même vu ça dans des articles, oh, grâce aux musulmans, nous avons été débarrassés du polythéisme dans le monde. Merci à l'islam. Ah oui, mais merci à l'islam, on voit ça. Merci à l'islam qui nous a débarrassés du polythéisme. Ah non, mais on voit ça. Alors ça, je peux vous dire, c'est la grosse bêtise. Je suis gentil, hein. Que l'on entend depuis 50 ans. C'est complètement faux. Dans le Coran, c'est extrêmement clair. Et vous pourrez lire les références dans mon livre. C'est extrêmement clair. Les polythéistes, il n'y en a pas dans le Coran. C'est pas difficile, il n'y en a pas. Le mot polythéiste, le mot idolâtre, que l'on voit régulièrement dans les Corans et dans les commentaires du Coran et dans les articles des islamologues. Le mot mushrik en arabe, mushrikoun au pluriel, ne signifie absolument pas polythéiste. Les mouchilikounes, ce sont toujours dans le Coran les chrétiens. Le mot mouchik ne peut se traduire que d'une seule façon, deux façons qui reviennent à une seule. On ne peut traduire que par associateur. Les mouchilikounes, ce sont les associateurs. Certains traduisent associationnistes. Oui, c'est pareil. Associationnistes. Parce que dans le Coran, voilà ce qu'il est écrit. Exactement, vous aurez toutes les références. Vous, les chrétiens, c'est marqué, parce que dans le Coran, on parle des juifs et des chrétiens, évidemment. C'était à l'origine une secte judéo-chrétienne. Donc dans le Coran, on parle des chrétiens et des juifs. Vous, les chrétiens, vous dites qu'il y a d'autres dieux que Allah. Non, ne dites pas qu'il y a d'autres dieux que Allah. Vous, les chrétiens, vous associez à Allah deux autres divinités. Qui sont Jésus et l'Esprit Saint, normalement ça devrait être l'Esprit Saint, mais ils disent et sa mère. Jésus et sa mère. Pour quelle raison la Trinité est-elle devenue le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Bon, les spécialistes actuels pensent, notamment l'abbé Galèse, pensent que c'est tout simplement parce que dans les premiers siècles, la secte des Ébionites, des judéo-nazariens, dont je vous parlais tout à l'heure, d'où provient l'islam, eh bien, avait transformé la Trinité en Allah, Jésus et Marie à cause des pères de l'Église, notamment Saint Ephrem, qui font des analogies très particulières entre l'Esprit Saint et la Sainte Vierge. Donc le fondamentalisme a fait que l'Esprit Saint c'est devenu la Sainte Vierge. Marie c'est la Sainte Vierge, c'est l'Esprit Saint. Donc voilà. Alors dans le Coran vous avez ça. Vous les chrétiens vous dites que Allah, vous associez à Allah deux autres divinités qui sont Jésus et sa mère. Eh bien non, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et nous devons vous combattre, parce que vous êtes des associateurs. Et le pire péché en islam, il y a un seul péché grave en islam, un seul. C'est le péché d'associationnisme. C'est ceux qui associent à Allah d'autres divinités, qui sont toujours dans le Coran, les chrétiens. Dans le Coran, il n'y a pas de polythéiste. Il y a seulement deux versets qui parlent des polythéistes. Enfin, même pas des polythéistes, qui parlent du polythéisme. C'est les deux fameux versets sataniques où on dit qu'il faut adorer les idoles. Alors, ils sont bien embêtés, les musulmans, avec ça. Il faut adorer les idoles. Alors, ben, ils disent que c'est l'ange Gabriel, parce que je vous signale que celui qui a donné la révélation du Coran à Mahomet, ce n'est ni plus ni moins que l'archange Gabriel. Ça ne vous rappelle pas un petit peu la Bible, l'archange Gabriel? L'archange Gabriel, c'est lui qui a annoncé à la Sainte Vierge qu'elle serait la mère du Sauveur. Donc l'Annonciation. Et comme par hasard, c'est le même archange qui annonce à Mahomet une contre-révélation. Parce que l'islam est une contre-révélation. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Je suis appelé à combattre tous ceux qui disent qu'il y a d'autres dieux que Allah. Et le Coran est rempli de phrases négatives qui s'opposent à la doctrine chrétienne. Je vous en cite quelques-unes encore. Dans le Coran, très souvent, il est écrit « Allah n'a pas de fils ». Voilà les révélations qu'il y a dans le Coran, soi-disant les révélations. Ce ne sont pas des révélations puisque ce sont des phrases négatives. Ce sont donc des anti-révélations, des contre-révélations. De quoi ? De la doctrine chrétienne. Parce que si l'on dit dans le Coran « Allah n'a pas de fils », et c'est clairement dit dans le Coran, vous les chrétiens, vous dites que Dieu a un fils, qu'Allah a un fils. Ne dites pas qu'Allah a un fils. Il est dit dans le Coran, vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu. Ne dites pas que Jésus est Dieu. Jésus n'est que, négation, n'est que, une réduction, n'est que le prophète d'Allah. Ça s'oppose directement à la doctrine chrétienne. Dans le Coran, il est écrit, vous les chrétiens, vous dites que Jésus a été crucifié. Non, Jésus n'a pas été crucifié. Parce que la théorie de l'islam, c'est de dire que Mahomet a reçu le Coran directement. Selon la théorie musulmane, Mahomet est allé à Jérusalem. Tiens, comme par hasard, Jérusalem, un lieu tout à fait biblique. Sur l'esplanade du temple de Salomon, l'ancien temple de Salomon, tiens, comme par hasard, sur lequel est construite la mosquée d'Omar actuelle, tiens, comme par hasard. Et puis, Mahomet s'est élevé vers le ciel, et puis l'ange Gabriel lui a révélé totalement le Coran. Totalement. Alors, il est redescendu, il a tout oublié, donc il a fallu que Mahomet réapprenne de la part de l'ange Gabriel pendant un certain nombre d'années le Coran. Bon. Alors, si je suis le prophète Mahomet et que je reçois des révélations de Dieu, j'aimerais bien apprendre quelque chose quand même, puisque c'est soi-disant des révélations. Alors je suis soi-disant le prophète de Mahomet, je reçois une révélation. Oui, d'accord, j'écoute. Allah n'a pas de fils. N'a pas de fils. C'est franchement décevant une révélation. Allah n'a pas de fils. Bah, je serais heureux s'il me disait Allah a un fils ou Allah a quelque chose. Il n'a pas de fils. Bon, bah, il n'a pas de fils. J'écris, il n'a pas de fils. C'est fatigant. Bien, dans le Coran, il y a beaucoup de révélations qui sont des anti-révélations. Dans le Coran, vous avez encore des phrases négatives qui s'opposent à la doctrine chrétienne, comme par exemple la crucifixion. Elle est niée dans le Coran. Ne dites pas que Jésus a été crucifié. Non, il a seulement été attrapé. Les juifs ont voulu l'attraper, il s'est enfui et quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Il n'est pas dit qui a été crucifié à sa place, mais les traditions musulmanes disent que c'est Barabbas, personnage biblique, ou Judas, personnage biblique, ou un autre personnage biblique. Voilà. Donc l'islam est une opposition. C'est ça qu'il faut marquer en gros. L'islam est une opposition à la doctrine chrétienne. À partir de là, vous comprenez bien que les relations avec l'islam ne sont pas faciles, parce que tant qu'on ne sait pas que l'islam est une opposition christianiste, on peut difficilement avoir des relations avec les musulmans. Si vous voulez annoncer l'évangile à des musulmans et que vous ne savez pas que l'islam est une opposition au christianisme, c'est quelque chose de très difficile. Lorsque l'on sait que l'islam est une opposition, c'est beaucoup plus facile. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il est 10h. Peut-être je pourrais vous donner un petit exemple ou deux pour terminer de la conversion de musulmans que je connais pour vous remonter un petit peu le moral après tout ça. Parce que quand même, il y a des musulmans qui sont bien intentionnés. Malheureusement, je dis dans mon livre qu'il y en a quand même peu qui sont sur le bon chemin et peu qui sont bons parce que l'islam les pousse à la haine contre l'infidèle, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns, alors je vais vous donner un exemple ou deux et puis je terminerai encore quelques minutes. J'ai un ami, par exemple, qui s'appelait Ahmed. Ils s'appellent tous Ahmed, vous savez. Presque. Il y a quelques années, en Égypte, j'ai été pris par un taxi. Le monsieur m'a dit, j'ai quatre garçons. Le premier s'appelle Mohamed. Le deuxième s'appelle Ahmed. C'est la même chose. C'est Mohamed aussi, c'est le nom du prophète. Le troisième s'appelle Mahmoud. Encore pareil. Et le quatrième, comme j'aime bien le prophète et que je voulais encore trouver un nom du prophète et que j'en avais plus, je l'ai réappelé Mohamed. Mohamed II, quoi. Ils aiment beaucoup Mohamed. Donc beaucoup de mes amis musulmans, convertis ou non, s'appelaient ou s'appellent Mohamed. Donc c'est un ami qui s'appelait Ahmed. Il s'appelle François maintenant, parce qu'il est baptisé grâce à Dieu. Il a été élevé chez les Pères Blancs, en Algérie. Et à l'âge de 9 ans, il est devenu chrétien, parce qu'il m'a dit, moi j'ai découvert que le christianisme était la vérité à la charité des Pères Blancs. Alors je suis rentré chez moi, j'avais 9 ans, j'étais tellement content, j'avais des petites allumettes, je les ai coupées, j'ai fait des petites croix avec mes allumettes, puis je me les ai mis dans les cheveux. Ah oui, puis je suis rentré chez mon papa, ma maman, et puis je suis chrétien, le christianisme c'est la vérité, Jésus est Dieu. Et il m'a dit, je me suis pris la raclée de ma vie par ma maman, évidemment. À l'âge de 15 ans, il est allé voir un évêque à Alger, qui lui a dit, bah écoutez, pour se faire baptiser, l'évêque lui a dit, écoutez, réfléchissez, soyez plutôt un bon musulman, je ne vous fais pas de dessin sur nos évêques et nos curés actuellement. Mais enfin, je trouve ça lamentable quand même, très lamentable. À 30 ans, il n'était toujours pas baptisé, on s'en doute. À 30 ans, il se fait arrêter par la police parce qu'il avait mis son jour de congé le dimanche. Et ses 4 ouvriers les mettaient en congé le dimanche. En islam, c'est le vendredi, le jour de congé. Et en plus, le dimanche, il allait embellir, nettoyer le cimetière des chrétiens. Il a été enfermé pendant 17 jours, interrogé et battu. Ils l'ont relâché au bout de 17 jours, mais ils lui ont envoyé un petit contingent de musulmans. Et les musulmans lui ont dit, quand ils sont arrivés, « Tu es chrétien !» Et Ahmed François, c'est un gars très costaud, et puis il est très courageux. Il a dit, oui, je suis chrétien. Il a sorti la Bible et il a dit, c'est ça la vérité, en montrant la Bible. Les musulmans étaient offusqués. Ils ont pris la Bible, ils l'ont jetée. Et il m'a dit, tu sais, jusqu'à là, j'ai supporté. Même qu'on me frappe, j'ai supporté. J'ai supporté la prison, j'ai supporté. Mais qu'on jette la Bible, je n'ai pas pu supporter. J'ai attrapé le Coran. Parce qu'ils ont dit, c'est ça la vérité, en montrant le Coran. Il dit, j'ai attrapé le Coran, je l'ai mis par terre, je l'ai piétiné, et je leur ai dit, maintenant vous partez, parce que sinon, il va vous arriver quelques petites histoires. Ils sont partis, mais évidemment, ils sont revenus bien vite. Il est obligé de s'enfuir d'Algérie. Il est passé clandestinement en France. Les premiers mois, pendant 6 mois, il est allé dans un groupe de prière. Puis au bout de 6 mois, il a dit aux gens, mais écoutez, demain c'est la messe de Noël, à quel endroit se trouve-t-elle, à quelle heure, tout ça. La messe, comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire de messe de Noël, tout ça. Il était chez les témoins de Jéhovah depuis 6 mois. Il ne savait pas. Et puis, bon, il a compris que ce n'était pas tout à fait le bon chemin. Il est allé voir l'évêque de la grande ville dont je m'a demandé de ne pas dire où c'était. Et il a fait un catéchuménat pendant 3 ans. Il s'est fait baptiser. J'étais à son baptême. Donc il avait sa grande cape blanche, baptisé, confirmé, communié. Et maintenant, il est très courageux. Le jour de son baptême, il m'a présenté un autre musulman. Il m'a dit, voilà, c'est un fils d'imam de telle ville où on était. Ah bon, jeune, une trentaine d'années. Il m'a dit, tu vois, il a encore plus la foi que moi. Il a une ferveur incroyable. Je me suis dit, comment avoir une ferveur plus forte dans la foi que Ahmed François? Bon, j'ai parlé avec ce jeune, 30 ans, du feu, pas encore baptisé. Il allait se faire baptiser 6 mois après. Mais vraiment, les musulmans convertis, c'est vraiment, mais c'est extraordinaire. J'en connais beaucoup, je pourrais vous parler pendant des heures. Les musulmans convertis, ce sera le prochain livre qui va sortir sur les musulmans convertis et comment annoncer l'évangile aux musulmans. Ce sera le prochain livre qui va sortir, j'espère, avant Noël. Eh bien, ils sont tellement fervents, ces musulmans convertis, ils ont tellement la foi. Moi, je vous encourage vraiment à annoncer l'évangile, et si vous le pouvez, auprès des musulmans, en sachant, évidemment, que l'islam est en anti-christianisme, comme ça, vous n'aurez pas de barrage, parce que si on ne le sait pas, on est bloqué, ça ne va pas loin. C'est pour ça que l'évangélisation, malheureusement, jusqu'à maintenant, elle est ponctuelle, mais elle n'a pas pu aller très loin, parce que jamais on a dit que l'islam était un anti-christianisme. Si on le sait, on peut passer les étapes beaucoup plus facilement, évidemment. Voilà, et je m'arrêterai là parce que j'ai beaucoup parlé, mais rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu pour toutes les merveilles, prions spécialement pour la conversion des musulmans et aussi pour les chrétiens persécutés en islam. J'ai vu tout à l'heure Monsieur Thomas Grimaud, peut-être là, qui a écrit un livre extraordinaire sur à l'édition de l'AED sur la persécution des chrétiens, et vous en parlera peut-être, évidemment sur le monde entier. C'est extraordinaire ce que les chrétiens peuvent être persécutés, spécialement en islam. Revenons de nos illusions, revenons de nos rêves. L'islam est vraiment persécuteur. Ça, malheureusement, c'est une réalité. C'est obligatoire puisque l'islam s'oppose à une religion qui est le christianisme. Merci.